Donc moi, les deux axes d'études que je voudrais évoquer, c'est aussi la bibliothèque d'Asnières et puis la société Franklin. Donc comme tu l'as dit, très justement, il y a rapidement des tentatives dès les premières années des années 1860. Il y a rapidement des tentatives pour exporter le modèle des bibliothèques populaires à la campagne et puis aussi rapidement dans d'autres arrondissements parisiens que celui du 3e arrondissement. Car il apparaît très vite qu'à Paris, il y a un vrai potentiel de lecteurs. Il y a quand même, les classes populaires sont nombreuses dans le Paris de l'époque, et il y a véritablement des possibilités pour ces bibliothèques de drainer un large public. C'est ce que les amis de l'instruction vont s'employer à faire en fondant presque une bibliothèque dans chaque arrondissement parisien. Et puis rapidement aussi en banlieue, avec donc l'extension de la ville donc, et la constitution d'une banlieue de travailleurs qui vont apparaître dans la seconde moitié du 19e siècle, et pour celle que j'ai étudiée en particulier à Asnières, donc, où on retrouve une nouvelle fois Girard à la fondation, mais il y a aussi Choisy-le-Roi, il y a aussi Saint-Mandé aussi, où il y a une bibliothèque des amis de l'instruction, enfin il y en a un peu partout autour de Paris. Et donc celle d'Asnières est fondée en 1871 par Girard, et c'est un peu un condensé de ce qu'Agnès a évoqué, avec donc une alliance une nouvelle fois entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Donc la classe ouvrière, c'est en plus à Asnières, ils sont vraiment personnifiés, puisque la classe ouvrière, c'est Girard, et la bourgeoisie, ça va être Charles Fauvetti, qui est un peu l'équivalent de Père Donnet, qui va jouer le même rôle de protecteur, de caution morale et sociale pour la bibliothèque. Fauvetti est un personnage très intéressant puisque non seulement c'est un bourgeois, mais en plus il est protestant, il est d'origine protestante, il est franc-maçon et c'est un intellectuel. Bon, il n'a pas donné apparemment de cours du soir, il n'a pas participé à l'association polytechnique ou philotechnique, mais il fait partie de ces intellectuels qui veulent diffuser le savoir, qui veulent partager le savoir et un savoir le plus large possible avec les classes populaires. Ensemble, ils vont fonder cette bibliothèque d'Asnières, qui est appelée à un avenir assez florissant, puisqu'elle va rapidement devenir la plus grande bibliothèque populaire du département de la Seine, dès la fin des années 1870, et qu'ensuite, elle va fonctionner durant très longtemps, de manière très florissante. Elle prête des milliers d'ouvrages chaque année. Les guerres, notamment la Première Guerre mondiale, sera juste un léger ralentissement dans son histoire, donc elle va perdurer très longtemps. Contrairement à la plupart des bibliothèques populaires parisiennes qui déclinent dès les années 1890, il y a une amorce déjà de déclin. On voit que le nombre d'inscrits, le nombre de lecteurs baisse, que le nombre de prêts baisse également progressivement, et qu'ensuite les premières commencent à fermer leurs portes petit à petit en 1900. À Asnières, la bibliothèque ne va faire que grandir, elle va engager du personnel, donc d'abord il n'y a qu'un seul bibliothécaire comme dans toutes les autres bibliothèques populaires, et puis ensuite il va y avoir un bibliothécaire adjoint, puis deux, puis des aides bibliothécaires, et elle va connaître son apogée même sous l'occupation, où à cette époque-là, enfin, le nombre de lecteurs va être presque même ingérable hein, pour l'association. Elle va employer jusqu'à 6 personnes et son fonds de livres va monter jusqu'à 30 000 ouvrages, beaucoup plus qu'ici où on a quand même déjà 20 000 livres. À Asnières, donc il y aura jusqu'à 30 000 ouvrages. Et elle va fonctionner en fait jusqu'à l'ouverture de la bibliothèque municipale d'Asnières qui va ouvrir en 1976. C'est à ces moments-là que la bibliothèque populaire ferme ses portes. Asnières échappe un petit peu, c'est la dernière fondation de Girard et ce sera finalement la plus pérenne et la plus brillante, tant en nombre de lecteurs que de prêts, que d'activités et puis aussi sur un très long terme puisqu'il y a presque finalement plus d'un siècle de lecture populaire à Asnières. Les autres bibliothèques des amis de l'instruction connaîtront un sort un peu moins brillant avec donc un déclin dès les années 1890. C'est déjà la fin de l'âge d'or, déjà à cette époque-là. Et puis ensuite, il y a plusieurs éléments qui vont se conjuguer pour progressivement amener à une diminution, une réduction du maillage de la lecture populaire laïque dans l'espace urbain parisien. Déjà, le premier facteur qui va amener déjà un peu la perte de vitesse des bibliothèques populaires, ce sera déjà la fondation d'un réseau de lecture publique parisien. qui a été étudiée par Laure Léveillé dans une thèse très intéressante sur les petites bibliothèques de la ville de Paris. La ville de Paris est exceptionnelle en France car c'est une des premières villes à fonder un réseau de lecture vraiment, un réseau de bibliothèques municipales ouvertes à un large public, au public le plus large possible, et également au public en blouse, donc aux ouvriers, aux classes populaires et aux femmes. Ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des villes françaises, puisque même dans les grandes villes de province, on a toujours les anciennes bibliothèques municipales qui sont un héritage de la Révolution et qui sont en fait des bibliothèques très patrimoniales avec les fonds qui ont été confisqués aux aristocrates lors de la Révolution de 1789 et qui s'adressent surtout aux érudits, aux savants, aux étudiants, qui sont fermés pour les classes populaires, il est impossible d'y accéder. Finalement, ce manque de bibliothèque pour les classes populaires, qui est à l'origine cette tension entre le désir de lire, la soif de lecture et de savoir, et l'impossibilité de rentrer dans ces anciennes, dans ces vieilles bibliothèques municipales, c'est cette tension-là qui va être à l'origine de la création des bibliothèques populaires, et donc aussi des amis de l'instruction. Eh bien, à Paris, elle va être résolue, cette tension, par la création d'un réseau de lecture municipal de la ville de Paris, ouvert à tous. Donc, ces bibliothèques, d'abord, il n'y en aura qu'une par arrondissement, dans les mairies d'arrondissement. Ensuite, elles auront des annexes dans les quartiers, etc. Mais en 1890, elles sont plus nombreuses que les bibliothèques populaires. Et donc, à ce moment-là, logiquement, elles vont être un des facteurs du déclin des bibliothèques populaires, puisque les lecteurs vont préférer ces bibliothèques publiques, municipales, aux bibliothèques populaires. Le deuxième facteur qu'on peut citer, c'est une absence de renouvellement et d'actualisation des fonds, qui est vraiment l'explication bibliothéconomique un peu de la disparition progressive des bibliothèques populaires, et qui explique aussi la fuite du public justement vers les bibliothèques municipales. Les bibliothèques populaires ayant moins de moyens, fonctionnant uniquement sur les cotisations, comme l'expliquait Agnès, des adhérents, ont moins de moyens, moins d'argent pour renouveler leurs fonds, et notamment acheter les derniers ouvrages, les ouvrages les plus récents, ceux qui attirent les lecteurs, qui attirent le public. Cette absence de renouvellement ou ces renouvellements de fonds qui sont insuffisants, eh bien, vont faire que l'offre municipale de lecture va apparaître plus attrayante, puisque les bibliothèques municipales, elles, ont de l'argent et peuvent renouveler leurs fonds beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement, acheter vraiment les derniers ouvrages parus. D'un point de vue du bibliothéconomique, les ouvrages sont vieillissants, s'abîment beaucoup dans les bibliothèques populaires. Ça va favoriser la fuite également des lecteurs, qui devient vraiment très difficile à enrayer au tournant du XXe siècle. À partir des années 1900, véritablement, il va y avoir un déclin de plus en plus visible. Et ce déclin coïncide également avec un troisième facteur qui se met en place justement en 1900, au tournant du siècle, qui est aussi le facteur politique, puisque comme j'ai pu le constater au cours de mes recherches sur les actes du conseil municipal de Paris, puisque toutes ces bibliothèques populaires sont toutes subventionnées par le conseil municipal de Paris, qui apporte quand même ces subventions précieuses qui viennent compléter efficacement les cotisations des adhérents. Ces subventions commencent très rapidement. Le conseil général de la Seine donne ses premières subventions en 1870. La ville de Paris, ce sera à peu près au même moment. Ces premières subventions qui sont très précieuses, eh bien, il y a un tournant politique en 1900, puisque pour la première fois, la droite va remporter les élections municipales. Le conseil municipal de Paris était radical, était de gauche depuis la fin du Second Empire, et il était plus à gauche que le Parlement français. Donc en 1900, il y a une victoire de la droite qui va en fait favoriser beaucoup plus le réseau municipal en investissant dans les bibliothèques municipales et en retirant des subventions aux bibliothèques populaires, donc en diminuant les subventions, voire même en les supprimant. Cette politique va constituer aussi un des facteurs qui va faire que les bibliothèques populaires vont avoir de plus en plus de mal à fonctionner correctement et à poursuivre leur développement. D'ailleurs, ici, la BAI du 3e arrondissement a dû fonctionner plusieurs années sans subvention à cette époque-là, à cause de ces décisions municipales, avant que la subvention ensuite ne revienne. donc des raisons politiques. Les bibliothèques les plus fragiles vont fermer, et ensuite la Première Guerre mondiale va aussi accélérer ce déclin, donc avec des difficultés pour acheter des livres, une baisse du nombre d'adhérents, puisque c'était quand même une population en majorité masculine, donc les hommes étant mobilisés, ne revenant pas du front pour certains, le nombre d'adhérents, le nombre de lecteurs baisse, le nombre de cotisations baisse également. Et donc il y a un peu une crise générale. Alors beaucoup de bibliothèques populaires vont rester ouvertes tout de même durant la guerre. C'est le cas d'Asnières, c'est le cas aussi ici dans le 3e arrondissement. Elles fonctionnent un peu au ralenti. Elles mettent un point d'honneur à rester ouvertes. Et juste après la Première Guerre mondiale, donc à partir des années 20, il va y avoir un mouvement en plus de municipalisation. C'est-à-dire que là, on cherche vraiment à municipaliser ces bibliothèques populaires, les mairies qui n'ont pas encore fait, notamment en banlieue, puisqu'en banlieue il y avait des besoins en installation de première nécessité. Là, elles vont se tourner plus vers une politique culturelle. Il va y avoir aussi le phénomène des banlieues rouges qui vont s'installer à cette époque, des mairies communistes qui vont prendre la politique culturelle à bras le corps. La politique culturelle devient aussi un enjeu électoral, c'est-à-dire que les maires et conseils municipaux vont avoir à cœur de contenter les électeurs, de satisfaire les électeurs de ce point de vue-là, notamment les électeurs issus des classes populaires. Et donc tout cela va entraîner une municipalisation de la lecture et des bibliothèques, encore plus que ça ne pouvait déjà être le cas, c'est-à-dire que dans Paris, cette municipalisation était déjà très avancée. En banlieue, elle va être réalisée donc un peu plus tard, durant l'entre-deux-guerres. Au commencement de la Seconde Guerre mondiale, on a déjà les deux tiers des bibliothèques populaires qui ont disparu, et la Seconde Guerre mondiale ne va pas arranger les choses. Les bibliothèques populaires, après la Seconde Guerre mondiale, ne seront plus qu'une poignée, vraiment, dans le département de la Seine. De la même manière, dans la France entière, il y a une survivance encore de quelques associations, mais qui vont avoir de plus en plus de mal donc, à vivre, qui vont petit à petit s'orienter vers des lieux, une mémoire du mouvement ouvrier, et de moins en moins vers vraiment des bibliothèques de près. Il y a certains fonds qui vont être récupérés par des bibliothèques municipales. Finalement, la bibliothèque des Amis de l'Instruction du 3e arrondissement, elle a toujours réussi à survivre, donc à maintenir cette activité de prêt jusqu'en 2000. Et aujourd'hui encore, donc l'association fonctionne de la même manière, toujours avec les statuts et avec le même fonctionnement, donc avec l'Assemblée Générale qui élit les administrateurs. Mais elle est donc la dernière bibliothèque populaire à fonctionner, à être ouverte au public dans Paris, en Île-de-France également, et sans doute aussi en France.
Ces difficultés de fonctionnement sont liées à deux postes. Le premier, c'est la location d'une salle qu'il faut chauffer, sachant d'ailleurs que régulièrement on note qu'il y a davantage de lecteurs qui s'inscrivent l'hiver que l'été, c'est normal. Hein, voilà. Et le deuxième poste, mais qui vraiment va ruiner les bibliothèques et qui va les empêcher de faire des acquisitions, c'est la reliure. Parce qu'à l'époque, les livres sont brochés, et un livre broché qu'on fait circuler une fois, deux fois, ça y est, il tombe en miettes, et donc il faut des reliures. Alors la société Franklin va mettre en place une reliure mécanisée grisâtre, qui du coup n'est pas très jolie et pas très attractive, et qui peut expliquer aussi...
Et qui ne va pas vraiment fonctionner, et qui ne va pas être très utilisée non plus.
Donc par exemple, le fond d'Asnières, c'est intégralement, c'est 30 000 volumes revêtus de cette couverture grisâtre.